01 Business avec la rédaction de 01 Informatique, Frédéric Simotel sur BFM.
Bonsoir et bienvenue dans l'émission 01 Business. Cette semaine, une émission qui va vous passionner puisque nous allons parler de cybercriminalité. La semaine prochaine, le 24 mars, se tient à Lille le Forum international de la cybercriminalité. On y parlera sécurité informatique, terrorisme international, économie numérique. Nous recevons ce soir certains des intervenants à ce forum. Nous allons savoir si les entreprises sont bien armées, si la guerre économique est déjà dans nos réseaux. La cybercriminalité économique et numérique, c'est tout de suite dans notre émission 01 Business sur BFM.
01 Business, l'innovation technologique au service de votre entreprise. Uniquement sur BFM Radio.
Et pour aborder avec nous ce soir sur BFM ce thème sensible, donc de la cybercriminalité, je reçois quatre invités. Il est lieutenant-colonel de gendarmerie, il est le principal instigateur du Forum international de la cybercriminalité qui se tiendra donc à Lille le 24 mars. Il est chargé de mission intelligence et sécurité économique pour la région de gendarmerie Nord-Pas-de-Calais. Régis Forer, bonsoir.
Bonsoir.
Ancien officier de l'armée française, il a travaillé pour les services de renseignement. Il est aujourd'hui consultant en sécurité de l'information pour Orange Consulting Service. Alban Drogec, bonsoir.
Bonsoir.
Troisième invitée est avocate, associée au cabinet Ferralschul Sainte-Marie. Elle est spécialisée dans le droit lié à l'économie numérique. Christiane Ferralschul, bonsoir.
Bonsoir.
Nous accueillons enfin un journaliste, auteur de plusieurs ouvrages, dont le dernier né, La cyberguerre, aux éditions Vuibert. Il est rédacteur en chef de Prospective Stratégique et coordinateur des enseignements à l'IRS de l'école militaire. Nicolas Arpagian, bonsoir.
Bonsoir.
Et pour le coup de pouce à une start-up, nous aurons en ligne Angèle Garcia, gérant de Tectosage, une société spécialisée dans le génie logiciel. Et Stéphane Bellec, journaliste chez 01, viendra pousser un coup de gueule. Il trouve qu'on abuse trop souvent de ce terme de cybercriminalité. Voilà, sans oublier Yann Serra, journaliste chez 01 Informatique, qui nous accompagne tout au long de cette émission et qui sera avec nous, avec qui nous allons démarrer, pardon, dans un instant, un premier tour du monde de l'actualité high-tech de la semaine. Voilà pour notre sommaire d'aujourd'hui, 01 Business, l'innovation technologique au service de votre entreprise. Nous démarrons tout de suite notre émission avec vous, Yann Serra, grand reporter à la rédaction de 01. Alors Yann, cette semaine, il y a cette rumeur qui court, IBM pourrait, devrait, doit, on ne sait plus, racheter Sun pour 6,5 milliards de dollars. C'est pas tellement cher finalement, mais quel est l'intérêt de racheter Sun?
Voilà, donc effectivement, énorme rumeur lancée par le Wall Street Journal. Donc 6,5 milliards de dollars. Alors effectivement, c'est pas énorme pour Sun. Pour mémoire, il faut rappeler que Sun et IBM sont concurrents sur une quantité de domaines. Hein. Sont tous les deux des mastodontes des serveurs Unix. Sont tous les deux des piliers principaux du monde Java. Ce sont deux acteurs majeurs de l'open source. Pour IBM, il y a donc l'opportunité de mettre la main sur les clients qui n'ont jamais réussi à avoir.
Donc tous les clients Sun.
Donc tous les clients Sun. Et donc bien sûr, la grande interrogation, c'est qu'est-ce que IBM peut bien faire des technologies de Sun qui sont redondantes avec les siennes.
Ouais, et puis les résultats de Sun ne sont pas très florissants. Donc bon, on attend ça, c'est peut-être dans quelques heures, peut-être pas. On va suivre ça en tout cas sur BFM. Autre sujet important de la semaine, c'est Cisco. Alors là, qui tente une percée dans le monde des salles informatiques. Et devient fabricant de serveurs, carrément.
Voilà, exactement. Alors, Cisco, donc, pour mémoire, c'est le leader des boîtiers réseau dans les salles informatiques. Donc, veut devenir maintenant l'un des principaux constructeurs de serveurs. Donc, ce qui a le don d'ulcérer ses partenaires IBM, HP ou encore Dell, puisque du coup, ils vont devenir concurrents.
Concurrents, oui.
Et oui. Alors, l'argument de Cisco, c'est qu'en regroupant l'intelligence du réseau et les serveurs dans la même boîte, Cisco devrait pouvoir construire des salles informatiques beaucoup plus performantes. Et en face, l'argument d'IBM et de HP, c'est qu'on ne s'improvise pas comme ça constructeur de serveurs. Ils dénoncent principalement l'absence totale de certification pour les applications.
Mais Cisco a signé des partenariats avec Intel, avec VMware, avec BMC. Voilà, ils se sont quand même bien entourés. Hein.
Justement, en fait, Cisco s'est bien entouré, mais en même temps, Cisco fait des choix technologiques bien déterminés qui ne plaisent pas à tout le monde, notamment le fait d'unifier le réseau et le stockage au travers d'une norme qu'on appelle FCOE. En fait, on les accuse de vouloir passer en force cette norme, parce que cette norme n'a pas du tout été ratifiée. Et pire que ça, la technologie n'est même pas finie.
Donc ça promet de belles batailles en perspective. On va encore suivre ça sur BFM et dans 01 Informatique. Alors, autre information de la semaine, c'est Linux qui profite de la crise.
Oui, c'est une étude IDC. On s'y attendait un petit peu, hein, Linux, système open source. Alors, selon l'étude IDC, les chiffres sont quand même assez impressionnants, puisque 72% des responsables informatiques aux USA devraient bientôt enlever Unix et Windows de leurs serveurs pour les remplacer par Linux. Même mieux, 68% pensent installer Linux sur les postes de travail. D'après l'étude, la raison principale de cette migration massive, ce serait la volonté de réduire les coûts de support de Windows et d'Unix, bien sûr. Cela dit, l'information est quand même à relativiser parce que l'étude a été commanditée par Novell.
Oui, qui est un éditeur de Linux, donc
qui est tout
intérêt.
L'un des éditeurs de Linux.
Et puis quand on nous dit toujours que Linux, on n'y va pas seulement à cause des réductions de coûts, bon là, on voit que finalement, c'est l'argument premier. Alors pendant ce temps, Windows 7 pourrait arriver plus tôt que prévu.
Exactement. C'est encore une indiscrétion. Microsoft ne le confirme pas officiellement, mais une première version finale serait disponible dès le mois de mai.
Alors, mai 2009. Hein,
mai 2009, oui, mai 2009. Alors, ce sera une version qu'on appelle Release Candidate, c'est-à-dire qu'elle est destinée à montrer au public le système tel qu'il sera commercialisé. Mais dans sa version finale. Il aura une durée de vie limitée. Maintenant, quant aux dates définitives, alors on parle d'une fourniture aux constructeurs de serveurs pour la rentrée 2009. Et donc, le système serait disponible en magasin.
Pour janvier. C'est-à-dire qu'ils ont dû voir le succès des téléchargements déjà des versions bêta pour se dire il est temps de se lancer. Alors, une autre vedette un peu de l'actualité, on le voit souvent sur BFM chaque semaine, c'est l'iPhone. Et là, c'est la version 3.0 qui est dévoilée.
Voilà. Alors, attention, ce n'est pas une nouvelle version de l'appareil. Hein. Ce n'est pas un nouvel appareil. Il s'agit d'une nouvelle version du logiciel de l'appareil. Alors, avec des fonctions supplémentaires et notamment des fonctions très attendues. Il sera enfin possible de faire du copier-coller.
Yes.
Oui, enfin. On pourra enfin envoyer et recevoir des MMS. On pourra afficher un clavier plus large. Pour que ce soit plus facile pour saisir, faire des recherches dans les documents qui sont stockés sur le téléphone et être notifié de ces nouveaux emails en temps réel, un peu avec un système façon push, vous savez, sur le BlackBerry.
Pas mal de nouveautés.
Autre
news cette semaine, c'est Intel qui pourrait retirer à AMD, donc autre fabricant, enfin son concurrent dans la fabrication de processeurs, le droit de fabriquer des Athlon. Il faut nous dire ce que c'est que des Athlon, parce que sur BFM, on n'en parle pas souvent.
Alors, vous savez donc que les PC et les serveurs sont construits avec des processeurs qui sont fabriqués par deux marques, par Intel et par AMD. Et en fait, AMD clone les puces d'Intel. Mais bon, là maintenant, il se pourrait que les prochains PC et les prochains serveurs ne soient plus équipés que de puces Intel. Parce que le problème, c'est qu'AMD a décidé de faire fabriquer donc ces processeurs par une filiale. Mais ça, ce serait interdit dans les accords qu'ont passé Intel et AMD.
D'accord.
Alors le truc, c'est que surtout le gros de cette annonce, c'est que Intel a mis en demeure son concurrent de corriger la situation dans les 60 jours.
Et puis le problème, c'est qu'AMD n'a peut-être plus les sous pour le faire. Hein.
Et le problème, c'est qu'AMD n'a plus les sous effectivement pour fabriquer lui-même ses processeurs.
Affaire à suivre. Alors, on va certainement reparler aujourd'hui dans cette émission qui est consacré, je rappelle, à la cybercriminalité, c'est la sortie d'un logiciel d'espionnage des lignes téléphoniques.
Oui, enfin. Tout à fait. Alors, ça s'appelle Warvox.
Warvox, vous connaissez ça, Régis Forer, oui?
Oui, ça existe déjà, notamment pour les services de police.
Ça sert en fait à... Ça utilise les services de téléphonie sur IP qui sont disponibles sur Internet et ça peut appeler jusqu'à 10 000 numéros en 3 heures. Le logiciel enregistre les premières secondes de la connexion et en fait, il trie dans une base de données les numéros qui correspondent soit à des interlocuteurs humains, à des fax, à des boîtes vocales, etc. L'un des buts de ce logiciel, c'est de retrouver des vieux modems qui sont encore en fonctionnement dans les entreprises et qui n'auraient pas été éteints, qui auraient été oubliés. Parce que ces modems, a priori, peuvent constituer une porte d'accès qui ne bénéficie pas de toutes les protections modernes.
Eh bien, on va suivre ça et puis on va certainement en reparler dans cette émission. Merci Yann Serra, grand reporter à la rédaction de Zéro Informatique, pour ce tour du monde de l'actualité high-tech. On se retrouve tout de suite pour la suite de notre émission qui porte aujourd'hui sur la cybercriminalité.
BFM Radio, 01 Business avec la rédaction de 01 Informatique.
Nous démarrons tout de suite notre débat sur la cybercriminalité avec vous, Nicolas Arpagian, rédacteur en chef de Prospective Stratégique, coordinateur des enseignements à l'IRS. Vous allez nous dire ce que c'est que l'IRS de l'école militaire. Et vous êtes auteur d'un ouvrage qui vient de paraître, qui s'appelle La cyberguerre aux éditions Viber, avec une préface d'Alain Bauer. Alors, juste un mot sur l'IRS.
Alors l'IRS, c'est l'Institut d'études et de recherche pour la sécurité des entreprises. Et en fait, c'est depuis 1997, donc avec un peu d'avance, la préoccupation notamment de la direction de la gendarmerie de s'intéresser à ce patrimoine économique qu'il faut protéger. Et naturellement, les systèmes d'information sont un des pans majeurs de la protection des intérêts des entreprises.
Et les élèves sont des militaires.
Alors,
c'est ça,
soit des officiers de gendarmerie, dans le cadre de leur cursus normal, dans le cadre notamment les référents intelligence économique, et également des cadres d'entreprise qui peuvent venir fréquenter les bancs de l'école militaire pour justement se sensibiliser à ces enjeux de protection.
Alors, parlons un peu, parlons beaucoup de cybercriminalité, on va rentrer un peu dans le vif du débat. Aujourd'hui, si vous dressez un panorama de la cybercriminalité en France en 2008, c'est quoi? On en est où aujourd'hui? Les tendances?
Alors, la tendance, elle est que ce qui est assez paradoxal avec la logique de la cyberguerre ou de la cybercriminalité, c'est qu'on aurait pu penser que c'était un phénomène mondial. Et on s'aperçoit, notamment en ce qui concerne la sécurisation, c'est qu'on est avant tout dans des dispositifs nationaux qui se juxtaposent. J'allais dire, c'est un peu comme pour la crise financière, où on a dit la crise est mondiale et chaque État fait son plan de relance propre. Et donc, c'est vrai qu'en termes d'attaques et de réponses, il y a un vrai paradoxe où les attaques sont mondialisées avec des origines multiples. Il n'y a pas d'attaque française ou à la française. Les Français sont des victimes comme les autres. Et par contre, les réponses policières, les réponses militaires sont des réponses strictement nationales. Il n'y a que quelques exemples de coopération, j'allais dire régionale, comme peut le faire l'Europe. Mais assez paradoxalement, ce n'est pas un sujet qui est traité au-delà de stricts intérêts très ponctuels et très régionaux.
D'accord, donc on va revenir là-dessus dans cette émission. Alors, je me tourne vers vous, Régis Forer. Donc, je rappelle, vous êtes chargé de mission intelligence et sécurité économique pour la région de gendarmerie Nord-Pas-de-Calais. Vous êtes officier de lieutenant-colonel de gendarmerie. Alors, le décor là, un peu dressé autour de la cybercriminalité. Qu'est-ce que vous mettez, vous, derrière ce terme de cybercriminalité? Parce qu'on a un peu l'impression qu'on y met tout et n'importe quoi.
En fait, on y met...
La faute de la presse, peut-être, d'ailleurs.
Non, je ne pense pas que ce soit la faute de la presse, mais simplement la perception du grand public. En fait, ça concerne toutes les technologies et entrées au numérique en elles-mêmes, aux transmissions de données. Voilà. Alors, donc ça concerne aussi bien les patrimoines matériels qu'immatériels d'entreprise.
Quel type d'activité criminelle ça englobe un peu? Vous mettez quoi?
On met tout. Ça va de la fraction de droit commun tout ce qui est l'escroquerie, au contenu illicite, la pédopornographie, ou carrément aux attaques utilisant spécifiquement les technologies comme les attaques de déni de service, les réseaux de botnet, etc.
Alors, on va en reparler parce que vous êtes l'instigateur du Forum international de cybercriminalité qui a lieu le 24 mars à Lille. On en reparlera tout à l'heure dans cette émission. Alors, passons à vous, Alban Andrejec. Vous êtes consultant en sécurité de l'information pour Orange Consulting Service. Alors, dans la branche spécialisée à la sécurité des SI, donc votre métier, c'est de faire en sorte que les entreprises évaluent mieux les risques face justement à cette cybercriminalité. C'est un peu ça?
Oui, tout à fait. Tout d'abord, on les aide à mieux évaluer les risques face aux vulnérabilités exploitant à la fois la technique, l'organisationnel, mais également liées aux facteurs humains. Mais ça ne s'arrête pas là, car nous les accompagnons après pour traiter ces différents risques.
Et là aujourd'hui, elles sont réceptives, il y a encore beaucoup de... On va en reparler plus tard, mais vous sentez quand même qu'il y a encore beaucoup de travail à faire auprès des entreprises pour qu'elles s'y mettent.
Elles commencent à prendre un petit peu conscience. J'ai l'impression qu'en France, on est un petit peu en retard pour cette prise de conscience au niveau du facteur humain. D'autres pays sont un peu plus avancés. L'Allemagne a récemment indiqué qu'elle en avait un petit peu marre justement de cette cybercriminalité liée aussi au facteur humain. Elle veut vraiment prendre les choses en main. Maintenant, en France, le problème, c'est quand on a une attaque qui est liée au facteur humain, c'est très tabou et on a peur d'en parler.
Eh bien, oui, Régis Forer.
Oui, simplement pour illustrer ce que vient de dire notre camarade à la table, c'est qu'il suffit, nous, on est à Lille, il suffit de faire 100 km et d'aller à Bruxelles et on a une perception totalement différente de l'action à conduire auprès des entreprises au niveau central. Moi, quand j'ai rencontré le commissaire en charge de la Federal Computer Crime Unit, il m'a donné les présentations que ces services font auprès des entreprises. Alors que nous, en France, on est plutôt encore sur le cloisonnement et un peu le conflit de chapelle. La même chose, on va à Londres, au SOCA, Serious Organized Crime Agency. Ils ont un département e-crime qui est relativement performant et qui travaille sur toutes les menaces concernant les entreprises.
Je vous interromps parce que le temps passe, mais on va en parler dans un instant. On se retrouve dans un instant sur BFM pour continuer à parler de cybercriminalité.
BFM, 01 Business, l'innovation technologique au service de votre entreprise. Frédéric Simotel.
De retour avec nos invités pour parler de cybercriminalité. Alors, on va démarrer avec vous, Christiane Ferralschul. Vous êtes avocate associée au cabinet Ferralschul Sainte-Marie. Alors, vous, qu'est-ce que vous repérez dans votre domaine, donc qui est le domaine du juridique, au niveau de la cybercriminalité? Est-ce qu'il y a de nouveaux textes qui sont apparus dans ce domaine récemment? Ou alors, on parlait à l'instant, on parlait du retard un peu français. Est-ce que là aussi, il y a un retard français?
Non, je ne pense pas qu'on puisse dire que le droit français soit en retard, parce que l'arsenal est très complet. Il faut savoir que toutes les infractions sont répertoriées depuis très longtemps, depuis la loi Godefrin, depuis 88. Alors, comme texte récent, il y a bien sûr la Convention sur la cybercriminalité qui date de 2006. Il y a également une loi de mars 2007 sur la prévention de la délinquance. Vous voyez qu'il y a des textes récents qui viennent parfaire. Il y a certaines nouvelles infractions, par exemple l'usurpation d'identité. Donc, je dirais que cela se complète. Le problème, il va se concentrer dans deux directions. D'une part, la collecte de la preuve, parce que vous ne pouvez pas, il va falloir démontrer l'infraction. Collecte de la preuve, il y a des difficultés parce qu'on est dans le numérique, que c'est volatile. Et puis la deuxième, ça va être l'appréhension du responsable, de l'auteur du délit ou du crime sur Internet. Et là, on va se tourner vers effectivement la police, les gendarmes, enfin tous ces cyber acteurs qui sont absolument indispensables. Mais les difficultés sont vraiment concentrées là.
Alors, on va justement parler avec vous, Régis Forer, dont vous êtes lieutenant-colonel de gendarmerie. Alors, quelles sont les principales menaces pour nos entreprises aujourd'hui, pour les auditeurs de BFM aujourd'hui, qui sont chefs d'entreprise ou patrons financiers, enfin, qui dans leur entreprise, quand on parle cybercriminalité, à quoi ils peuvent être confrontés aujourd'hui?
D'abord, si on peut qualifier les menaces de virtuelles, les conséquences sont bien concrètes. Et je dirais peut-être la première des menaces au sein de l'entreprise, c'est l'homme en lui-même. C'est l'utilisateur des technologies numériques. Ensuite, vient bien sûr la protection des patrimoines et de l'entreprise. Et également, un troisième volet, qui est un peu actuellement, auquel on assiste malheureusement, c'est un peu la naïveté des chefs et d'entreprises qui se voient proposer des solutions informatiques qui ne correspondent pas forcément à leurs besoins. Et donc, on crée, si vous voulez, une espèce de syndrome.
Ils pensent qu'ils sont protégés, puis en fait...
Ils pensent qu'ils sont protégés, ils sont mal protégés, ne font pas évoluer leur protection, ou sont carrément souvent en complète illégalité par rapport à la loi.
Ah oui, c'est de l'ignorance. Oui, Christiane Ferralschul.
Oui, je voulais souligner qu'on dit que plus de 80% des infractions au sein de l'entreprise sont internes à l'entreprise. Je pense que c'est important de le souligner, parce qu'on parlait de la menace.
Et pas forcément volontaire, je crois, en plus.
Oui, je pense qu'il y a une approche assez inconsciente. Le numérique étant très facile d'accès, on ne se rend pas compte des conséquences.
Ça reste du virtuel, voilà. Ça reste du virtuel, alors que les conséquences sont bien concrètes. Les technologies numériques ont évolué avec une telle rapidité qu'on les a trop rapidement intégrées à notre environnement, sans en mesurer à la fois toutes les opportunités et tous les risques. Parce que surtout, ce qu'il faut, je crois, ce qui est important de faire, c'est d'acculturer le chef et l'entreprise à l'outil numérique pour qu'il sache en exploiter toutes les opportunités pour son développement et le développement de l'économie française.
Puis lui faire comprendre aussi les risques. Nicolas Arpagian, vous, dans l'enseignement que vous donnez justement autour de ces systèmes d'information aux gendarmes, à des militaires, à des policiers, qu'est-ce que vous repérez comme lacune dans les entreprises?
Alors,
on vient d'en parler à l'instant.
Déjà, pour être clair, quand on parle de cybercriminalité, il faut distinguer en fait deux segments. Le premier segment, ce sont les réseaux, c'est-à-dire le fait de contaminer un réseau, soit en le neutralisant, soit en l'infectant. Et l'autre chose est le véhicule, c'est-à-dire le support qui est l'information. De faire en sorte d'utiliser les canaux que représente Internet pour faire de la diffamation, du dénigrement. Si on prend les opérations récentes, au mois de janvier 2009, la filiale chinoise de Danone fait l'objet de mise en cause, en tout cas la production de lait de Danone en Chine fait l'objet de mise en cause profonde et grave dans des forums. Il est évident que c'est pour altérer l'image de Danone en Chine. Lorsqu'il y a eu cette polémique, en tout cas cette annonce de mise en difficulté des systèmes d'information du ministère de la Défense pour paralyser les rafales de l'aéronavale française.
Alors
les rafales,
il y a deux mois à peu près.
Voilà, on était fin 2008. Techniquement, les rafales n'ont pas été empêchées de décoller. C'est-à-dire que s'il avait fallu qu'elles décollent, ils auraient pu le faire. La seule chose, c'est qu'il a fallu improviser, passer sur un système de secours et prendre ensuite du temps pour décontaminer avant de mettre le patch pour venir réparer les infections de configure. Prenez l'exemple également de Guillaume Pépi, le président de la SNCF, qui a été obligé de publier cette semaine un mea culpa solennel à l'encontre de son homologue, le président de la Deutsche Bahn. Il s'avère qu'il avait accusé de manière extrêmement forte le président de la Deutsche Bahn d'avoir mené des opérations de pénétration des systèmes d'information de la SNCF. Et le problème, c'est qu'on trouve dans la lettre quasiment d'excuse de Guillaume Pépi dire « Bon, je ne suis pas en mesure de prouver que c'est vous, mais j'ai l'impression que, et personne n'est capable d'assurer. » Et donc, le seul moyen qu'il a eu à faire, c'était à un moment de se retirer et de formuler ce qui représente quand même des excuses.
Alors, Alban Drejec d'Orange Consulting Service, on parle de ce facteur humain. Vous confirmez, vous êtes en contact tous les jours avec des entreprises clientes. Et vous, c'est vraiment ce facteur humain, vous pensez qu'on... Les hommes ne sont pas assez sensibilisés, hein, c'est ça ?
C'est en tout cas le maillon le plus faible de la chaîne de sécurité. Alors pourquoi ? Déjà parce qu'il y a presque autant de failles que de personnalités. Mm-hmm. Et puis peut-être qu'aussi, c'est peut-être que le facteur humain a été trop laissé pour compte pour le moment.
Alors qu'est-ce qu'il faut mener ? Il faut mener des actions de formation, d'information ? Qu'est-ce que vous proposez, vous, chez Orange, par exemple ?
Alors, par exemple, pour la sensibilisation des personnels, donc il faut vraiment maintenant investir dans la sensibilisation des personnels, sans
les forcer non plus.
Enfin, sans forcer, mais sans délaisser aussi la protection technique et organisationnelle, bien évidemment, mais c'est un élément en plus à prendre en compte. Et maintenant, former les gens dans l'utilisation, dans leur quotidien et chez eux, pour une bonne utilisation de leur système informatique, en fait.
Parce que je crois qu'on voit souvent des PC qui sont oubliés à l'hôtel ou qui sont volés dans les taxis, des téléphones portables. Enfin, ça, c'est faut montrer aux gens que ces outils-là ont des informations sensibles.
Oui, mais déjà les former avec des exemples concrets. Par exemple, chez eux, comment ils utilisent Internet avant de leur dire attention, interdiction. Non, faut déjà les former chez eux à une bonne utilisation et avec des moyens aussi des supports médias plus ludiques comme la vidéo, même comme on l'abordera peut-être tout à l'heure, le Web 2.0, se servir de ces moyens de communication pour attirer le public et faire en sorte qu'il adhère à cette sensibilisation.
Une des particularités de cette cybercriminalité, il faut quand même le rappeler, c'est qu'il n'existe pas d'indicateur indépendant pour quantifier le phénomène. Les seuls chiffres publics qui sortent et régulièrement mis à jour émanent globalement de deux corporations. Un, les éditeurs de logiciels et deuxièmement, les compagnies d'assurance. C'est-à-dire, c'est un peu comme si on vous intéressait aux problématiques des cambriolages et que c'était les vendeurs de verrous ou de portes blindées qui, chaque année, régulièrement, tous les six mois, vous tenez au courant. Et évidemment, ont forcément intérêt à susciter un caractère un peu anxiogène. Donc, il serait souhaitable, juste pour mémoire, en 2004, à l'époque, Thierry Breton, ministre de l'économie, Dominique de Villepin, ministre de l'Intérieur, se réunissent solennellement en disant « Oh là là, la cybercriminalité, c'est un vrai enjeu !» et disent « Il nous faudrait un indicateur public neutre, en tout cas tiers, d'un tiers qui ne soit pas partie prenante commercialement. » On est en 2009, peut-être bientôt en 2010, l'indicateur n'existe toujours pas.
Régis Ferrat, vous travaillez autour de ces indicateurs hein,
c'est... Oui, bien entendu, parce que nous, notre grande difficulté, c'est qu'on n'arrive pas à chiffrer exactement quel est le coût de, à la fois quels sont les faits,
le nombre de faits, d'interventions.
Et surtout également le coût de ces faits, parce que pour nous, un vol de données matérielles est égal à un vol de scooter. Alors que si le vol de scooter, bon, il a une valeur, je veux dire, absolue dans l'immédiateté. Le vol et de données ou le défaçage de sites a des répercussions beaucoup plus importantes pour l'entreprise. Et là aussi, c'est un enjeu pour acculturer tous les acteurs, les praticiens de la justice, que sont les forces de l'ordre sur le terrain, sur la sensibilité des nouvelles technologies numériques.
Justement, Christiane Ferlchoud, vous vouliez intervenir ?
Oui, en fait, ces indicateurs sont très difficiles, tout simplement parce que beaucoup d'entreprises ne donnent pas suite.
Il est clair
que lorsqu'il y a une difficulté de cet ordre, c'est une très mauvaise publicité et le problème est réglé en interne.
Et vous, alors, sans donner les noms des entreprises, bien sûr, mais quels sont les actes de délinquance que vous voyez le plus souvent passer, que vous défendez
Alors, d'anciens salariés qui ont conservé des codes d'accès à des messageries. Par exemple, il y a eu le cas d'un ancien consultant informatique qui avait conservé des codes d'accès d'un directeur des ressources humaines et d'un des dirigeants de l'entreprise. Et donc, il se connectait régulièrement pour se tenir au courant des informations qu'il transmettait à son frère qui était dans une société concurrente.
Ah, en plus,
voilà,
oui.
voilà le type d'infraction. Mais vous constaterez que c'est une infraction classique. On est dans l'abus de confiance, on est dans l'escroquerie. Il y a beaucoup...
Oui, c'est pas forcément... amplifié, aux technologies de l'information.
Voilà, oui. C'est amplifié par l'Internet, mais on est dans des infractions classiques. Alors, dans des infractions plus spécifiques, vous avez l'usurpation d'identité numérique. Alors ça se généralise, au point d'ailleurs que ça crée une infraction spécifique. Mm-hmm. Donc, prendre le nom de quelqu'un d'autre, se faire passer pour quelqu'un d'autre sur Internet, là, on est vraiment dans du spécifique.
Mm-hmm. Régis Ferrer, vous voulez y ajouter ?
Oui, moi, je voulais juste ajouter quelque chose, c'est ça, par rapport à l'humain. C'est souvent l'impact humain, les conséquences humaines de l'infraction numérique. Là aussi, sans citer le nom d'entreprise, et c'est un exemple que je cite régulièrement pour sensibiliser les chefs d'entreprise. Quand vous avez un chef d'entreprise qui est en garde à vue pendant 36 heures parce qu'il est incapable de justifier la provenance d'images pédopornographiques que tu as trouvées sur un ordinateur et de son entreprise, c'est dramatique parce que vous avez quelqu'un qui a perdu une famille, quelqu'un qui a perdu une entreprise et donc avec toutes les conséquences induites et du chômage. Et là, c'est dramatique parce que le chef d'entreprise, et je le répète, pour lui, la menace n'est que virtuelle. Le chef d'entreprise a le nez dans le guidon et ne juge pas, n'évalue pas le risque numérique à sa juste valeur.
Alors,
je veux dire qu'on ne dit pas assez que le chef d'entreprise est responsable de la manière dont les outils technologiques sont utilisés et qu'il a un pouvoir de contrôle outils.
On le dit souvent.
Donc, je pense qu'il faut le dire.
Et on le dit souvent sur FM et le chef d'entreprise et le DSI, parce que c'est souvent les DSI qui nous écoutent et qui lisent Zéro Informatique. On leur dit aussi qu'ils sont les responsables de tout ça.
Les DSI, enfin, les chefs d'entreprise se déchargent trop souvent sur leur DSI. Mm-hmm. Donc, je crois que le chef, il est aussi du rôle du chef et d'entreprise de se tenir un peu au courant de l'évolution de la criminalité.
Ça fait partie de la sensibilisation, de la même manière qu'on sensibilisait, on doit responsabiliser chaque employé sur la manière dont il utilise les outils technologiques. De la même manière, le chef d'entreprise, DSI et autres doivent comprendre l'importance et les conséquences pénales attachées à cette utilisation.
On va parler de tout ça dans un instant. On se retrouve tout de suite pour la seconde partie de 01 Business. Après le journal de l'économie, avec nos invités, on va continuer à parler de cybercriminalité.
01 Business avec la rédaction de 01 Informatique, Frédéric Simotel sur BFM.
On se retrouve avec nos invités pour parler de cybercriminalité. Régis Ferrer, chargé de mission intelligence et sécurité économique pour la région de gendarmerie Nord-Pas-de-Calais. Alban Andrejet, consultant en sécurité d'information pour Orange Consulting Service. Christiane Ferral-Schul, avocate associée, fondateur du cabinet Ferral-Schul Sainte-Marie. Et Nicolas Arpagian, rédacteur en chef de prospective stratégique, coordinateur des enseignements à l'IRS de l'école militaire. Voilà. Mais avant de rentrer dans notre débat, nous accueillons Stéphane Bellec, journaliste chez 01 Informatique. Alors Stéphane, on parle beaucoup de cybercriminalité, notamment aujourd'hui, mais un peu trop. On en parle trop et sans trop savoir ce qu'on met derrière. Hein. C'est ce que vous voulez dénoncer, vous, aujourd'hui.
Oui, voilà. Enfin, ce que je reproche, c'est qu'on en parle un petit peu à tort et à travers et qu'on a un petit peu tendance à raccrocher la cybercriminalité à tous les problèmes de sécurité informatique. Si je regarde un petit peu en arrière, depuis 2 ans, j'ai pu constater une évolution, ne serait-ce que sur la façon dont sont rédigés les communiqués de presse des éditeurs de sécurité, où on ne parle plus uniquement de menaces ou de protection contre des actes de piratage, mais de cybercriminalité. Alors, le terme est sexy, vendeur, on voit même se développer presque un fonds de commerce autour de tout ça. Certains en parlent de telle sorte qu'on se croit tout droit sorti d'un roman de science-fiction. Alors finalement, on passe un petit peu des pirates de Polanski au cyberpunk de Philip K. Dick ou au cyberterroriste de Tom Clancy, mais au final, on s'y perd un peu. Un cybercrime, qu'est-ce que c'est ?
Voilà, bah vous allez nous le dire tout de suite, j'espère.
Alors, un petit peu d'étymologie. Donc, cyber, donc ça vient du grec et veut dire gouvernail. C'est un petit peu le mot du 20e siècle, utilisé à toutes les sauces, dès lors qu'il s'agit de décrire un outil, une personne ou une pensée qui se veut un petit peu novatrice. Le crime, lui, vous me direz si je me trompe, hein, est une infraction considérée comme portant atteinte au bien-être collectif de la société. On pourrait se dire tout naturellement, finalement, en contractant les deux mots, qu'un cybercrime est une façon de porter atteinte au bien-être collectif en utilisant des outils modernes.
Ce qui est assez juste, non, finalement ?
Ben, c'est pas si facile. Alors, selon la loi, un crime est une infraction, certes une très grosse, mais une infraction, elle, n'est pas forcément un crime. Alors, vous allez me dire que je joue un peu sur les mots, mais je pense que c'est quand même important. Si je prends l'exemple des réseaux pédophiles, nous avons là affaire à des criminels qui utilisent les nouvelles technologies. Donc, selon la définition que j'ai donnée un petit peu avant, on a affaire à des cybercriminels. Et pourtant, ils ne sont pas vraiment jugés comme tels. Et pour cause, ils étaient là avant, comme beaucoup de choses.
Donc, qu'est-ce que vous voulez nous expliquer là, derrière ça ?
Alors, ce que je veux dire, c'est que aujourd'hui, quand on parle de cybercriminalité, on s'imagine très souvent qu'on est en face d'une menace qui est nouvelle. Or, C'est faux, la plupart du temps. On a souvent en face de menaces qui ont changé de moyens ou de méthodes. Si je prends l'exemple tout simple du spam, ma boîte aux lettres, la vraie, hein, celle qui est dans mon immeuble, n'a jamais été aussi vide de pubs, c'est-à-dire qu'elle est vierge de toute pollution depuis que le spam est arrivé. Donc la conclusion, c'est de dire que le spam a toujours existé, mais avant il était là sous une autre forme. Donc attention à ne pas agiter le chiffon rouge trop souvent et un petit peu partout.
Eh bien, merci Stéphane Bellec, journaliste chez Zéro Informatique, pour cet éclairage. On va tout de suite faire réagir nos invités, notamment vous, Régis Forer. Justement, on a organisé cette émission aujourd'hui parce qu'il se tient à Lille le Forum international de la cybercriminalité. Donc, c'est au Grand Palais, c'est le 24 mars. Vous en êtes l'instigateur. Alors, voilà ce que disait Stéphane Bellec, journaliste. Oui, c'est ça, c'est... Ces journées-là sont là aussi pour faire le point, pour voilà, qu'on sache un peu à qui on s'adresse, quelles sont les menaces.
Oui, je vais rejoindre ce que disait votre collègue tout à l'heure. Je suis un peu d'accord avec lui. En fait, ce qu'il faut donner, c'est du sens au cyberespace et du sens à la cybercriminalité. C'est pour ça que moi, je préfère parler de criminalité numérique. Mais si j'organise un forum sur la criminalité numérique, je veux dire, ça ne va pas forcément intéresser le chef d'entreprise qui représente quand même 40% de la fréquentation du forum. Donc le but, c'est justement, oui, de sensibiliser le chef d'entreprise, les collectivités territoriales, mais également, je reviens sur le problème de la pédopornographie, les papas et les mamans qu'il y a derrière chaque chef et d'entreprise. Et donc, si vous voulez, j'en suis venu à cette démarche donc de forum sur la cybercriminalité.
Alors, je vais donner une indication aux auditeurs. Il y a un site sur ce forum, c'est www.fic2009.fr. Voilà, si on veut plus d'informations sur ce forum qui tient donc lieu à Lille le 24 mars.
Et c'est gratuit.
Et c'est gratuit en plus. Voilà. Et donc, tout un ensemble de tables rondes, de conférences, d'exposés, d'ateliers. Voilà, toute une journée complète.
Donc il y a 15 ateliers, 3 conférences plénières, plus dans un espace agora, des conférences données par des fournisseurs de solutions de sécurité, mais ce ne sont pas des conférences commerciales. J'aurais demandé d'axer leur discours sur de réels problèmes stratégiques concernant leur positionnement, leurs travaux, par rapport à l'évolution de la menace numérique.
Alors, on l'a rapidement évoqué tout à l'heure, il y a aussi l'envie de faire avancer tous ces projets au niveau de la France, au niveau de l'Union européenne aussi. C'est un peu l'objectif que vous poursuivez à travers ce forum, c'est rameuter un peu toutes les bonnes volontés.
Et tout à fait, c'est ce que disait Nicolas et tout à l'heure, les réponses sont essentiellement nationales pour l'instant. Donc, par exemple, là, nous devrions remettre à la plus haute autorité présente donc le 24 mars, un guide de coopération transfrontalière franco-belge sur les bonnes pratiques et sur les mesures à prendre en commun pour avancer sur le traitement de la criminalité numérique. Nous aurons également des intervenants anglo-saxons qui viendront parler, donc qui feront le lien entre les attentats du 11 septembre et les nouvelles opportunités qu'offrent pour les criminels les nouvelles technologies numériques. Donc il y a besoin, si vous voulez, à la fois d'alerter nos pouvoirs publics. Il y a besoin à la fois de s'unir ensemble tous les pays de bonne volonté pour lutter contre la menace numérique. Il faut également montrer aux chefs et d'entreprises qu'il y a des bonnes volontés qui essayent de s'allier pour protéger cette fantastique outil de développement pour l'entreprise que constituent les outils numériques.
Voilà. Et il faut bien leur faire comprendre que chaque jour, il y a des hackers, des pirates qui cherchent qu'une chose, c'est rentrer dans leur système, et pas seulement les systèmes de la Société Générale ou ceux de la Sûreté Nationale. Ça s'adresse à tout le monde. Même l'entreprise de BTP locale, on peut pirater son
site. Il faut être bien clair, tout à fait. Bon, les entreprises dites stratégiques, dans le sens de la classification donnée par les services du Premier ministre, elles sont bien au fait de la criminalité numérique et savent se protéger. Nous, ce qui nous intéresse surtout, c'est de sensibiliser les start-up et les futures grandes entreprises et de demain. Car quand vous allez sur un salon où on vous propose la création d'entreprise, vous avez tout pour la création de l'entreprise, mais vous n'avez rien pour la protection des patrimoines matériels et immatériels de l'entreprise. Donc ça, ce n'est pas encore dans notre culture.
Alors Alban Drogec, je vais vous passer la parole. Donc je rappelle, vous êtes consultant chez Orange.
Oui, donc ce qui a changé depuis peu, en fait, c'est la masse d'informations qui est disponible sur tout le monde et sur toutes les entreprises. Et ça permet à n'importe qui, malheureusement, d'effectuer des attaques sur n'importe quelle cible,
oui, c'est ça.
Avec peu de moyens. Et donc ça, c'est un véritable problème, c'est la maîtrise de son information et l'utilisation de cette masse d'informations à mauvais escient par tous.
C'est dans une logique d'intelligence économique.
Exactement.
C'est pour ça qu'il est très important que le corpus juridique, le cadre juridique ne se fonde pas sur une technologie. C'est-à-dire que si on prend l'exemple d'une loi qui fonderait effectivement ses poursuites sur la seule recherche, par exemple de l'adresse IP, si on prend l'exemple de la loi Hadopi, elle est forcément appelée à être caduque. Pourquoi ? Parce qu'il y aura inévitablement une offre alternative qui, entre nous soit dit, existe déjà, soit de cryptage des paquets de données, soit d'adresse IP temporaire. Et donc, il faut plutôt avoir des textes qui fonctionnent de manière pérenne et ne pas chercher à faire des lois fondées ponctuellement sur une technologie. C'est très important. Je parlais quand même juste Internet est considéré dans notre code pénal comme un facteur aggravant. C'est-à-dire que si vous diffusez des informations sur quelqu'un dans la vie, en société, vous risquez un certain nombre de sanctions liées à la diffamation. Les sanctions sont accrues, que ce soit l'amende ou que ce soit la peine d'emprisonnement. C'est-à-dire qu'on considère effectivement, mais ce qui est logique, la caisse de résonance, l'amplification est telle, le coût d'entrée en plus financier pour mener une opération de dénigrement est tellement bas qu'il faut effectivement y mettre des sanctions. La difficulté, Christiane Ferralschul l'évoquait tout à l'heure, c'est pas tellement d'aller chercher quelqu'un qui a pignon sur rue sur le territoire français, voire sur le territoire européen. C'est quand on fait l'objet d'une opération concertée, c'est d'aller le rechercher quand il est dans le vaste monde et effectivement où les moyens d'action de la police et des services de police, enfin de la justice, pardon, les services de police sont largement démunis.
Alors justement, Christiane Ferralschul, on abordait ce thème-là avec vous. Donc vous êtes l'auteur d'un livre, ça s'appelle Cyberdroit, le droit à l'épreuve d'Internet, dont l'édition 2009-2010, on s'en doute, vient de paraître. Je pense qu'il y a il faut en refaire régulièrement des éditions, c'est aux éditions Dalloz. Alors, vous, justement, Nicolas en parlait, vous êtes d'accord avec ce qu'il dit sur ces lois
qu'on Ah oui, je souscris à ce qu'il vient de dire. Et d'ailleurs, dans le sous-titre, le droit à l'épreuve de l'Internet, c'est vrai que l'avantage de l'Internet, c'est que ça nous oblige à repenser les fondements du droit et on se rend compte que beaucoup de dispositions existent déjà. Je pense qu'il ne faut absolument pas perdre de vue que beaucoup d'incriminations sont préexistantes à l'Internet. L'Internet a amplifié le phénomène.
Et puis, vous avez l'impression que la fraude aussi, on a l'impression que la fraude aussi, elle est devenue plus professionnelle. Je parlais de hackers, de pirates, mais aujourd'hui, c'était une autre génération. Aujourd'hui, on a vraiment... ça s'est bien professionnalisé.
Alors, je pense qu'il faut distinguer les attaques délibérées, et effectivement, vous avez raison, le phishing, on voit tous ces comportements délibérés qui visent à nuire. Et puis, vous l'avez dit plus tôt, il y a également tous ces comportements inconscients. Et ceux-là sont les plus importants, ce sont ceux qu'on rencontre au quotidien. C'est cette absence de conscience qu'en adressant les modèles et dessins d'une entreprise, on pille le fonds de commerce de l'entreprise. On peut l'adresser à un ancien salarié qui va s'en servir pour créer une nouvelle société. Ce cas-là, on l'a eu la semaine dernière. Ce matin, un client nous indiquait qu'il y avait eu usurpation de son nom sur ses forums extérieurs et qu'il dénigrait ses propres produits par ce biais. Il y a un jeu qui se veut malicieux et qui a des conséquences graves.
Alban Drogec, oui.
Justement, cette prise de conscience est très importante, notamment la prise de conscience sur les informations qui existent sur nous, en fait, sur Internet. En fait, une chose très simple, essayez de taper votre prénom, votre nom sur un moteur de recherche et regardez ce qui existe sur vous. Vous serez certainement surpris de voir tout ce qui existe sur vous. Donc, au moins, prenez conscience de ces informations pour voir comment elles peuvent être exploitées à mauvais escient contre vous.
Oui, Christiane Ferralschul.
Oui, vous évoquiez tout à l'heure les informations de l'entreprise, les organigrammes. Vous avez un certain nombre d'entreprises qui ne veulent pas rendre public leurs organigrammes. Eh bien, via les réseaux sociaux, on parle du Web 2.0, tous ces systèmes, il y a beaucoup d'informations qui sont diffusées et vous pouvez reconstituer les organigrammes de ces sociétés. Et il n'y a pas de contrôle direct du chef d'entreprise sur ces réseaux sociaux qui, évidemment, sont créés à l'extérieur de l'entreprise.
C'est un gros souci des RH aujourd'hui.
Oui, dans la prise de conscience de l'entreprise, nous, ce qu'on peut constater en tant que consultant, c'est qu'il y a une demande de cadrage de l'utilisation de ces outils dans l'entreprise.
Merci. On se retrouve dans un instant sur BFM. On quitte un instant notre débat sur la cybercriminalité pour retrouver notre start-up de la semaine.
BFM Radio, 01 Business avec la rédaction de 01 Informatique.
Juliette Fauché, journaliste à la rédaction de 01 Informatique, bonsoir. Vous nous avez rejoint pour notre coup de pouce à une start-up cette semaine. Nous avons en ligne Angèle Garcia, il est gérant de TectoSage. C'est une société spécialisée en génie logiciel, c'est cela Juliette.
Oui, Angèle Garcia, bonsoir. Oui, bonsoir.
Donc vous êtes le fondateur de Tectosage et vous éditez donc une solution de modélisation et de pilotage des systèmes d'information. Ça veut dire quoi ça? Parce que c'est un peu compliqué.
Non, alors la solution Top Process sert à gérer et maîtriser les processus. Donc les processus du système d'information, les processus de développement des logiciels. La solution permet d'atteindre cet objectif par deux grandes phases et outils, la modélisation des process et le pilotage opérationnel.
Donc ce sont deux solutions différentes? Ou c'est une même solution et deux...
Voilà, c'est un système qui comprend principalement ces deux solutions.
D'accord. Est-ce que vous pouvez nous donner un exemple très concret de ce que vous faites?
Oui, en fait, depuis 4 ans, nous développons cette démarche de process Lean IT, en particulier dans le domaine du système embarqué pour un projet du pôle aéronautique espace et système embarqué. Pour lequel nous avons modélisé un composant de processus qui a été validé par les principaux donneurs d'ordre comme Airbus, EADS, Astrium ou Continental. C'est aussi pour le conseil général de notre département, par exemple, et pour son service informatique, la maintenance des applications, donc la modélisation de ces process et le pilotage.
Alors, Angèle Garcia, votre start-up, donc Tectosage, est arrivée sur un marché, mais qui est déjà occupé. Il y a des gens comme IBM qui proposent déjà des solutions de modélisation un peu de ce type-là. Alors, qui sont les autres concurrents, puis en quoi votre solution est différente?
Alors, à part le terme modélisation, tout est différent, et à commencer par la démarche. Donc notre démarche est fortement influencée par le Lean Management. C'est ce qui nous permet, par exemple, de répondre à des besoins de TPE. Toujours dans cette même démarche, nous privilégions le management humain, ce qui est très différent des autres approches qui sont beaucoup plus intrusives et qui visent à contrôler. Alors ce n'est pas seulement parce que nous privilégions l'humain, mais c'est surtout pour donner à l'organisation toute la latitude nécessaire pour changer rapidement ces processus et être proactive.
Mais en ces périodes de crise, est-ce que les entreprises sont vraiment intéressées par l'idée d'améliorer leurs processus? Est-ce qu'elles ne sont pas plutôt prises par les problèmes de trésorerie?
Alors, elles sont préoccupées. Mais leur problème immédiat est de savoir si elles doivent optimiser leurs processus actuels, et si oui, lesquels et de combien, ou si elles doivent profondément revoir leurs processus. Le tout dans une incertitude, effectivement, sur la reprise, de savoir si il vaut mieux contre-attaquer. Donc c'est aussi le moment idéal pour elles et pour, par exemple, les poursuivants de rattraper ce retard et de se repositionner pendant la crise.
Très bien, ben merci Angèle Garcia, qui est, je le rappelle, fondateur de Tectosage, éditeur de solutions de modélisation et de pilotage des systèmes d'information, et que vous pouvez retrouver dans 01 Informatique de cette semaine et sur notre site internet 01informatique.fr.
On se retrouve dans un instant avec nos invités pour poursuivre notre débat sur la cybercriminalité.
BFM 01 Business, l'innovation technologique au service de votre entreprise. Frédéric Simotel.
Encore quelques minutes pour continuer à parler de cybercriminalité avec nos quatre invités. Régis Forer, chargé de mission intelligence et sécurité économique pour la région de gendarmerie Nord-Pas-de-Calais. Alban Andrejec, consultant en sécurité de l'information pour Orange Consulting Service. Christiane Ferralchoul, avocate associée au fond et fondateur du cabinet Ferralchoul Sainte-Marie. Et Nicolas Arpagian, rédacteur en chef de prospective stratégique et coordinateur des enseignements à l'IRS de l'école militaire. Alors, on va tout de suite replonger dans le vif des débats. Parlons un peu de l'explosion du Web 2.0. On en a rapidement parlé, je crois, Alban Andrejec, vous vouliez évoquer ce sujet-là. Voilà, ça perturbe aussi au niveau des utilisateurs que nous sommes, parce que là, on s'adresse aux personnes en particulier.
Oui, voilà, donc le Web 2.0, c'est une grande révolution, une véritable innovation, donc il faut en faire un allié plus qu'un danger. Et le Web 2.0, ça permet tout simplement de crédibiliser les attaques. Par exemple, on parlait de phishing tout à l'heure. Lorsqu'on reçoit un mail d'une banque A, par exemple, disant bon, « allez sur tel site », etc., mais qu'on est en fait de la banque B, ça ne va pas fonctionner. Le Web 2.0 va permettre en fait de connaître la victime et de savoir qu'elle est dans cette banque A, par exemple. Mm-hmm. Donc, au moins, on va personnaliser l'attaque ou de savoir si elle aime bien jouer au golf, on va lui envoyer un lien vers un site de golf. Donc, on crédibilisera l'attaque et on va avoir plus de chances d'escroquer la victime, tout simplement. En fait, c'est de l'escroquerie pure et dure, pure et simple, mais sauf que ça permet de connaître la victime. Donc, il faut juste sensibiliser les gens sur le fait que ces informations, ça permet de crédibiliser les attaques et mener des campagnes de sensibilisation pour qu'ils puissent les utiliser à bon escient et que ça devienne un véritable allié, mais plus un danger, quoi, c'est tout.
Là, il y a des forces qui s'opposent, parce que le rôle de ces entreprises qui fournissent des services 2.0, on va parler de Viadeo, de LinkedIn, enfin de tous ces moteurs, de tous ces forums sociaux,
Facebook, tous ces gens-là,
c'est qu'au
oui.
contraire, Facebook, c'est qu'ils vous encouragent, ils vous récompensent dès lors que vous fournissez un maximum d'informations. Si vous mettez à jour votre parcours à l'école primaire, à l'école secondaire, à l'université, si vous détaillez vos fonctions au sein des entreprises par lesquelles vous êtes passé, vous avez votre note qui progresse, vous avez votre cote qui monte. Donc, on est bien, et c'est valorisant, parce qu'effectivement, on se dit après tout, même si j'ai une obligation de loyauté vis-à-vis de mon employeur, ma cote personnelle sur le marché éventuellement professionnel, social, voire pourquoi pas sentimental, progresse également. Et donc la sécurité des uns, c'est aussi l'ego des autres. Et donc c'est, on joue avant tout sur une reconnaissance miroir, des gens qui souhaitent et sont satisfaits de voir leur indice de popularité sur Internet avec leur nombre d'amis chez Facebook, ou au contraire le nombre de fois où ils sont cités chez Google.
Vous avez parlé, Nicolas, du devoir de loyauté. Christiane Ferrachoul, ça c'est un... quelque chose aussi auquel il faut sensibiliser aussi les salariés, devoir de loyauté envers leur employeur.
Absolument. Vous avez en fait deux obligations du côté de l'employeur, qui est une obligation de transparence qui consiste à informer exactement l'employé des dispositifs de contrôle qu'il met en place sur ses outils technologiques. Vous avez également une obligation de proportionnalité qui consiste à mettre en place des moyens de contrôle proportionnés par rapport à la finalité recherchée. Et en face, vous avez l'obligation du salarié qui est un devoir de loyauté, de consacrer son temps de travail à fournir le travail qu'il est censé fournir. Il faut pas que... C'est ce qui explique justement qu'il ne passe pas des heures à faire son marché sur Internet ou à jouer à des paris sur Internet. Vous voyez, on rentre vraiment dans cette analyse et la frontière est délicate à fixer parce qu'elle relève in fine d'un pouvoir totalement souverain du juge. Il n'y a pas de règles strictes.
Régis Forêt, oui. Oui,
je crois que surtout le chef d'entreprise n'est pas assez sensibilisé, certes, sur le comportemental, sur l'humain, mais il faut surtout qu'il intègre en permanence la protection de ses patrimoines immatériels. C'est ça, c'est toute défaillance humaine, tout comportement humain déviant aura une répercussion sur son patrimoine immatériel qui représente de la valeur.
Le stockage de données, les logiciels, enfin c'est...
Surtout, hein, ça va de l'employé qui va sortir avec un plan sur une clé USB et qu'il va perdre, mais également, et là on ne l'a pas encore évoqué, il faut que le chef d'entreprise pense à sauvegarder ses patrimoines immatériels. À les protéger, c'est-à-dire à les externaliser, la politique est d'archivage, la signature électronique, etc. En fait, c'est un coût, enfin, je veux dire, la criminalité numérique, la protection numérique, et constitue un coût complet dont l'élément humain est le maillon faible.
Alors, il y a juste un point, après je passerai la parole à Alban Dojek, mais... Et la CNIL dans tout ça, elle n'est pas suffisante. Les sourires se crispent.
La CNIL est une institution qui a l'avantage de bénéficier d'une très belle cote de popularité dans l'opinion. Donc c'est une structure de confiance. Je vous rappelle qu'il y a quelques mois de cela, Alex Turk, président de la CNIL, a pris la plume officiellement dans Le Monde de mémoire pour faire une tribune en disant qu'il était en dépôt de bilan. Il était en faillite quasiment parce que son institution a vu le nombre de ses missions exploser en nombre et on lui ajoute des missions supplémentaires. La compilation de données est tellement facilitée qu'effectivement la loi de 78 sur
avec
le stockage,
des responsabilités derrière en plus, c'est surtout
voilà,
ça.
Et des moyens qui n'ont absolument pas suivi. Donc c'est vrai que c'est un crédit formidable, une réalité hélas bien différente.
Ceci étant, il faut saluer l'action de la CNIL parce que ces actions constituent un véritable garde-fou et empêchent. Si vous voulez.
Dans la mesure de leur contrôle effectif. Voilà. C'est-à-dire qu'il s'avère que dans une. Juste pour prendre une anecdote, je vous rappelle que si vous. Le site de la CNIL est CNIL.fr. Si vous allez sur CNIL.com, vous allez tomber sur un site érotique et on est toujours. La CNIL n'a toujours pas été en mesure de récupérer.
De rester sur CNIL.fr.
Hein. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que. Et mal. Pourquoi ? Parce que visiblement, ils ont du mal à essayer de retrouver la personne qui leur a fait ce strict clin d'œil, puisqu'il n'y a pas d'intérêt visiblement immédiat derrière.
Je vois justement derrière la protection, respect des libertés individuelles. Et respect aussi de l'utilisation, le droit qu'a l'employé de pouvoir accéder à Internet selon le code qui sera donné, de la charte qui sera élaborée, mais également avec les nouvelles technologies telles que la biométrie. Heureusement que la CNIL est là, sinon on assisterait à du n'importe quoi. Et dans les entreprises, il y a des entreprises que je ne citerai pas, il y en a plusieurs, qui se sont fait fournir des matériaux donc, de contrôle d'accès biométrique en totale illégalité, mais en toute bonne foi. Mais le chef d'entreprise, là encore, reste responsable.
Je pense qu'on peut rappeler que le rôle principal est de préserver les données à caractère personnel. et qu'elle rappelle qu'il y a des obligations pour le chef d'entreprise de sécuriser les dispositifs pour justement préserver ces données à caractère personnel. Mmh. Alors quand on est sur Facebook, par exemple, bien on rencontre d'autres types de problèmes parce que les données, on ne sait pas où elles sont sauvegardées. On n'a pas toutes ces protections de la loi informatique et liberté.
L'employé peut le faire de chez lui. Donc
absolument.
C'est délicat pour l'employeur d'aller voir ce que met l'employé à titre personnel.
Non, il n'est pas obligé de le faire, effectivement, avec une intention bienveillante.
Ce qui veut dire quand même qu'aujourd'hui, l'entreprise a l'obligation de tenir compte du Web 2.0. C'était votre question de départ, et qu'en fait, il y a deux stratégies qui sont en train de se profiler, ou trois. Il y a les entreprises qui décident d'affronter le problème et qui intègrent
Mais qui sont presque obligées de le faire, parce que les nouveaux jeunes qui arrivent dans l'entreprise, ils ont envie d'avoir un Facebook.
Absolument. Il y a celles qui ignorent complètement le problème. Donc, c'est tout et n'importe quoi, et effectivement, il n'y a pas de règles. Il y a celles qui prennent ça de front et qui décident qu'elles vont cadrer et rappeler que ce n'est pas parce que vous utilisez Facebook que vous devez divulguer ou violer l'obligation de confidentialité et de loyauté que vous avez à l'égard de l'entreprise. Et puis à celles qui prennent une stratégie dure, même si elle paraît incohérente dans le système, qui consiste à dire je vous interdis d'accéder à du Web 2.0 à partir de l'entreprise.
Alors Allemand Rejet et puis Régis Horaire.
Et une quatrième option qui serait intéressante, c'est celle qui justement profite de ces sites de réseaux sociaux pour être proactive et être présente sur ces sites et créer ce business.
Je la mettais dans la deuxième option. Voilà, c'est pour ça.
Dans ces contacts Facebook, on devrait avoir le contact de la CNIL ou d'une institution.
C'était un double tranchant parce qu'il y a quelques mois maintenant, il y a des cadres dirigeants d'un grand groupe américain qui se sont fait avoir par une opération de phishing qui les concernait directement parce que les éléments étaient tellement précis qu'ils se sont fait avoir. Et ces éléments ont été obtenus sur les réseaux sociaux. Mm-hmm. Donc attention aux réseaux sociaux.
On appelle le wall-in maintenant. Ça empêche la baleine, non plus le phishing. C'est le wall-in maintenant.
De la même manière, certains employeurs ont trouvé des informations concernant leurs employés sur des réseaux sociaux.
Donc c'est vrai que ça passe par de la pédagogie humaine. Et c'est pour ça que j'insistais sur le côté où il ne fallait pas se fonder sur des technologies. C'est avant tout du management. Je veux dire, un salarié qui se sent bien, s'il est valorisé, il s'estime correctement rémunéré et traité dans des conditions qui le satisfont, ne va pas mener des opérations de dénigrement et sera plutôt en faveur de défendre des attaques dont son employeur pourrait faire l'objet. Donc c'est avant tout aussi un accompagnement humain de tous les instants.
Merci à tous pour vos interventions brillantes. J'espère que nous avons alerté nos auditeurs sans trop les effrayer non plus sur les menaces cybercriminelles. Rendez-vous donc au Grand Palais à Lille au Forum International de la Cybercriminalité. Ce sera le 24 mars. Le site c'est www.fic2009.fr. Rappelons les ouvrages Cyberdroit, le droit à l'épreuve d'Internet dont l'édition 2009-2010 vient de paraître aux éditions Dalloz de Christiane Feralschul. La Cyberguerre de Nicolas Arpagian aux éditions Vuibert avec une préface d'Alain Bauer. Et si vous avez manqué le début de l'émission, elle est en podcast sur bfmradio.fr. Merci à nos quatre invités, Régis Ferrer, Alban Andrejet, Christiane Feralschul, Nicolas Arpagian. Merci à Juliette Fauché, Yann Serra, Stéphane Bellec, nos brillants chroniqueurs de Zéro Informatique. Merci Élise Barbé qui nous a aidé à préparer cette émission, sans oublier le coup de pouce à la start-up Tectosage et son gérant Angèle Garcia. Vous retrouvez tous ces sujets dans le journal Zéro Informatique. Suivez quotidiennement l'actualité du secteur sur zéroinformatique.fr. À la semaine prochaine. Yeah.